Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous nous suivez à la radio et en images sur YouTube. Dans 30 minutes, vous aurez la parole, bien évidemment, comme tous les matins. Et aujourd'hui, nous dresserons le bilan de la tournée du président ghanéen John Dramani Mahama. Il était au Mali, au Niger, au Burkina Faso, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont quitté la CEDEAO. Et pour tenter de réconcilier l'AES et l'organisation ouest-africaine, eh bien, le président ghanéen a surpris tout le monde en affirmant que l'Alliance des États du Sahel était une réalité irrévocable et il propose donc que la CEDEAO reconnaisse l'AES, une proposition inédite venant d'un chef d'État ouest-africain. Alors que vous inspire cette initiative ? John Dramani Mahama parviendra-t-il finalement à convaincre ses homologues de la sous-région ? Pour l'instant, aucun d'entre eux n'a réagi aux déclarations du président guinéen. En tout cas, ce matin, on en parle sur RFI. Vos réactions, elles sont nombreuses. Pour tout vous dire, je n'ai pas eu le temps de lire toutes les réactions postées sur nos réseaux sociaux, mais je me ferai quand même le porte-parole de certains d'entre vous en lisant quelques-unes. Le standard est ouvert 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Aboubacar, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Merci de nous écouter dans la capitale sénégalaise. Vous avez des questions concernant cette mystérieuse maladie des pêcheurs dans votre pays ?
Exactement, merci beaucoup. J'ai entendu que les scientifiques avaient découvert l'origine de la maladie des pêcheurs qui a contaminé plus de 1 million de personnes dans mon pays.
Oui.
Alors ma question est de savoir quelle est l'origine de la maladie. Comment les pêcheurs sont-ils parvenus à percer le mystère ?
Ouais, on se souvient, il y a un peu plus de 4 ans, une étrange maladie de la peau avait frappé de nombreux pêcheurs sénégalais, ce qui avait suscité évidemment des inquiétudes, mais aussi de nombreuses interrogations. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste à RFI, chef adjointe au service environnement-climat. Après 4 ans de recherche, ça y est, le mystère est enfin percé. Quelle est l'origine de cette maladie ?
Eh bien, la coupable, c'est la portimine A. Cette toxine a provoqué donc des inflammations cutanées sévères. Cela s'est manifesté par des sortes de boutons sur les bras, les jambes, le visage ou encore le sexe. Et cette toxine, elle a été générée par une micro-algue qui porte le doux nom de Vulcanodinium rugosum. Cette portimine A bloque en fait la production de protéines dans les cellules. Cela active un capteur immunitaire puissant, le NLRP1. D'habitude, ce capteur nous protège contre de nombreuses infections, mais avec cette interaction, le récepteur a déclenché une inflammation incontrôlée.
Et d'où ces nombreux boutons donc apparus sur les bras, les jambes et même les parties génitales de nombreux pêcheurs. Comment les chercheurs ont-ils levé le mystère ?
Alors, c'est une investigation d'envergure qui a demandé beaucoup de patience. Au total, une quarantaine de scientifiques d'une quinzaine de laboratoires à travers le monde s'y sont mis à Dakar, Toulouse, Murcie en Espagne ou Singapour. L'IRD, l'Ifremer ou encore le centre antipoison de Dakar sont impliqués dans ces recherches. Et au début, eh bien, les chercheurs ont pas mal tâtonné. Déjà, les premières recherches en mer se sont faites un peu tardivement. Autre problème, ils sont intervenus sans vraiment savoir quoi chercher.
Ouais.
Alors au début, les scientifiques pensent à des polluants chimiques d'origine humaine, des polluants, on va dire, classiques. À ce moment-là, il y avait le début de l'exploitation pétrolière au large du Sénégal. Alors ils ont étudié cette piste. Il y a eu aussi des hypothèses sur les phtalates qui seraient issus des filets. Et puis en parlant avec les pêcheurs, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait qu'une catégorie de pêcheurs qui était touchée. C'est ceux qui utilisaient des filets mailles en dérivant de surface. Et ça, ça a orienté en fait les scientifiques. Ils ont prélevé de l'eau qui était restée au fond d'une pirogue dans de ces pêcheurs.
Et sait-on pourquoi cette micro-algue et cette toxine appelée donc la portimine A, si j'ai bien retenu, c'est bien ça. Pourquoi la micro-algue et la toxine se sont soudainement manifestées ?
Alors là, c'est encore un peu mystérieux. Les chercheurs s'étonnent de son apparition de cette micro-algue à cet endroit. Les symptômes ne sont apparus que sur les pêcheurs qui sont allés au large, alors qu'en fait, c'est une microalgue qui est normalement plutôt côtière. Mmh. Et on n'a pas encore de réponse certaine pour savoir pourquoi elle était là. Parmi les indices, il y a peut-être la saison. En 2020, comme en 2021, les symptômes sont apparus en novembre, au moment du changement de saison, quand les nutriments remontent des eaux profondes. Mais cela n'était pas arrivé auparavant. Donc, cela soulève aussi des problématiques de changements environnementaux. Parmi les hypothèses, il peut y avoir les transports par les eaux de ballast des navires. En fait, pour mieux naviguer, ils se chargent d'eau à certains endroits, puis ils les relarguent à d'autres endroits. Donc, ça permet de disséminer certaines espèces. Autre interrogation aussi, le rôle des bouleversements liés au réchauffement climatique. Cela modifie la température et l'oxygénation de l'eau, la plus grande concentration de CO2 dans l'atmosphère acidifie aussi les mers, et tout ça, cela favoriserait la prolifération et la redistribution de certains micro-organismes. Mais pour l'instant, ce ne sont que des pistes et cela reste donc à prouver.
Donc, les chercheurs ont encore du travail, si j'ai bien
Exactement.
Compris. Aboubacar, vous avez une dernière question, allez-y, profitez-en.
Oui, la découverte va-t-elle permettre de parvenir et mieux soigner la maladie?
Pauline Glaise.
Alors à cette heure, il n'y a pas encore de remède à cette maladie. Ce sont plutôt les symptômes en fait qui vont être soignés. Symptômes qui peuvent persister de quelques heures à trois semaines à peu près. Et cette étude permet malgré tout de donner quelques conseils de prévention en fait. Prendre du matériel étanche pour se protéger. Emporter une réserve d'eau douce en mer pour pouvoir se rincer en cas de contact suspect. Puis en cas de contamination, il faut nettoyer, désinfecter les lésions et puis sécher soigneusement. Mais surtout, il faut demander un conseil médical. Et puis un dernier mot, au-delà de cette maladie des pêcheurs, cette étude pourrait donner des pistes de recherche sur d'autres maladies. Cela pourrait par exemple être utile dans la lutte contre le cancer.
À suivre donc. Merci infiniment, Pauline Glaise, de toutes ces explications. Des explications d'ailleurs à réécouter à tout moment sur notre application RFI Pure Radio. Aboubacar, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, merci à Pauline pour ces explications. Merci beaucoup.
Et bonne journée à Dakar. Continuez à nous écouter sur les 92 FM Dakar, où il est 8h17. On repasse évidemment au standard avec Ali, qui nous écoute à Rosso. Rosso, c'est en Mauritanie et c'est à la frontière avec le Sénégal. Bonjour Ali.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Donc, merci.
Pour plus de précision, c'est Ali Mangan.
Très bien. Bah, écoutez, vous avez le droit de donner votre nom de famille si vous le souhaitez, bien évidemment. Quelles sont vos questions?
Okay. Bon, j'ai deux questions concernant Facebook en Chine.
Oui.
Donc, nous savons qu'afin d'installer Facebook en Chine, Mark Zuckerberg aurait proposé aux autorités chinoises de leur donner accès aux données. Donc, ma première question est la suivante. Pourquoi le réseau social est-il toujours bloqué en Chine?
Alors, c'est une ancienne cadre de Facebook qui affirme effectivement que Meta, la maison mère du réseau social, aurait envisagé de partager les données. Alors, quand vous dites les données, Ali, ce sont les données des utilisateurs de Facebook pour, en échange, obtenir le feu vert du Parti communiste chinois et donc pouvoir s'implanter sur ce marché colossal. Bonjour Claire Broadhurst.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Correspondante permanente de RFI à Pékin, cela fait des années que Mark Zuckerberg cherche à s'implanter sur le plus gros marché mondial. Pourquoi Facebook est-il toujours bloqué en Chine ?
Alors déjà, Facebook est interdit en Chine depuis juillet 2009 et officiellement, le gouvernement invoque des préoccupations liées à la stabilité sociale et au contrôle de l'information. Alors l'interdiction, eh bien, elle a été mise en place après les émeutes ethniques d'Urumqi qui se sont déroulées au Xinjiang. À l'époque, les autorités chinoises soupçonnaient des militants d'utiliser Facebook pour organiser des manifestations et diffuser des informations, ce qui faisait craindre justement des troubles sociaux. Et Pékin, on le sait, contrôle étroitement le contenu en ligne et limite l'accès aux plateformes étrangères. Et Facebook, qui permet une communication sans restriction, eh bien, elle est perçue comme une menace. Et à la place, le gouvernement chinois privilégie les réseaux sociaux nationaux comme WeChat, Weibo ou Douyin, qui sont plus faciles à surveiller, mais aussi plus faciles à censurer. Il y a un autre enjeu, c'est la méfiance de Pékin envers les entreprises technologiques américaines. Le gouvernement chinois considère Facebook et d'autres plateformes étrangères comme des outils potentiels d'influence et de collecte de renseignements. Et c'est une crainte qui alimente la censure d'Internet en Chine depuis plus de 15 ans. Et cette politique, eh bien, elle s'inscrit dans la stratégie plus large de Pékin en matière de cybersouveraineté, c'est-à-dire garder l'écosystème Internet sous contrôle et limiter l'influence des plateformes étrangères.
Mais on peut quand même accéder à Facebook en Chine.
Alors, Facebook reste bloqué en Chine continentale, mais on peut y accéder à Hong Kong, Macao et Taïwan. Et certains utilisateurs ici en Chine continentale contournent l'interdiction grâce à des VPN, même si aujourd'hui les outils sont de plus en plus restreints. Mais paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que Facebook reste un outil clé pour les entreprises chinoises, surtout celles qui cherchent à toucher les marchés internationaux, notamment via la publicité et aussi le commerce en ligne. Et c'est vrai, vous le disiez, Mark Zuckerberg a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher des autorités chinoises. Il a appris le mandarin, il a rencontré Xi Jinping. Et en 2018, il a eu un petit espoir parce qu'en fait, Facebook a brièvement enregistré une filiale à Hangzhou. Mais c'est une tentative qui a échoué puisque la licence, elle a été révoquée en quelques heures. Et aujourd'hui, l'entreprise opère de manière indirecte, donc via des partenariats publicitaires et des investissements dans la tech chinoise. Mais Facebook reste interdit. Pourquoi ? Parce qu'il ne se conforme pas aux réglementations strictes de Pékin sur Internet et sur le contrôle de l'information.
Vous avez une dernière question, Ali ?
Si, j'ai une dernière question. La voici. Est-ce que les autorités ont réagi à cette situation ?
Les autorités chinoises ont-elles réagi aux allégations de cette cadre de Facebook qui affirme que Zuckerberg était prêt à partager les données des internautes chinois ?
Eh bien non, aucune réaction du gouvernement chinois ni des médias, et c'est un silence qui en dit long, puisqu'en fait, la Chine, on le disait, contrôle strictement les flux d'informations, et si Meta s'est réellement montré prêt à se conformer aux exigences chinoises en matière de censure et d'accès aux données, eh bien cela soulèverait des inquiétudes sur la pression exercée sur les entreprises occidentales.
Et parler de cela mettrait Pékin dans une position délicate, hein.
Exactement, parce qu'en fait, reconnaître ces discussions pourrait renforcer les craintes occidentales sur la surveillance chinoise, tandis qu'un démenti nécessiterait d'expliquer pourquoi Meta n'a toujours pas accès au marché chinois. Et on est dans un contexte de tension technologique entre Pékin et Washington, et dans ce contexte, la Chine préfère l'option du silence, justement pour éviter d'attiser les critiques et de renforcer le débat interne. Mais d'autres géants comme Apple, par exemple, ont déjà dû se plier aux règles chinoises en stockant les données des utilisateurs sur des serveurs liés au gouvernement. Et si Meta était prêt à faire de même, cela montrerait l'influence persistante de Pékin sur les entreprises technologiques mondiales. Donc en fait, cette affaire, elle pourrait créer un précédent et accentuer le débat beaucoup plus large sur les concessions faites par les grandes entreprises pour accéder aux marchés autoritaires, le tout au détriment de la vie privée et surtout de la liberté d'expression.
C'était passionnant. Merci beaucoup Léa Broadhurst, correspondante permanente de RFI à Pékin. Ali, merci infiniment de votre confiance et de votre fidélité. Bonne journée à Rosso, à la frontière sénégalo-mauritanienne. 9h23 à Paris. Des questions maintenant sur la présidentielle du mois d'octobre en Côte d'Ivoire. Bonjour Abdel.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous êtes à Abidjan.
En effet, je suis à Abidjan.
On vous écoute.
Alors, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, 25 partis ont créé une coalition d'opposition à 7 mois de l'élection présidentielle. Pourquoi le PPAC du président Laurent Gbagbo est-il absent de cette coalition ?
Ah, l'ex-président a-t-il décidé de faire cavalier seul ? Bonjour Binta Diagne.
Bonjour Juan, bonjour Abdel et bonjour à tous.
Correspondante permanente de RFI à Abidjan. Alors, cette alliance baptisée Coalition pour une alternance pacifique, elle regroupe tout de même des poids lourds de la scène politique. J'en citerai quelques-uns, le PDCI de Tidjane Thiam, le MGC de l'ex-première dame Simone Eyvet, le FPI de Pascal Affine-Guessant ou encore le COGEP de Charles Blé-Goudé. Binta, il y a tout de même un absent qui saute aux yeux. C'est l'ex-président Laurent Gbagbo et son parti, le PPACI.
Oui, Juan, effectivement, le PPACI ne fait pas partie de cette coalition. Ce parti n'a pas envoyé de représentants pour assister à la cérémonie de lancement de cette nouvelle coalition lundi matin. Raison invoquée, le parti de l'ancien président ivoirien travaille depuis plusieurs mois de son côté sur la formation d'un autre groupe, d'une autre coalition, suite à l'appel à l'union formulé le 14 juillet 2024 par Laurent Gbagbo à Benoît. On n'est pas en concurrence, assure Jean-Gervais Tchéidé, le porte-parole adjoint du PPACI. On demande la même chose, on a un même combat, poursuit ce responsable, à savoir organiser des élections inclusives et enclencher une réforme du système électoral. En effet, l'année dernière, le PPACI a adressé 2 lettres à la primature pour également demander un dialogue politique et surtout demander l'inscription de son leader, actuellement inéligible sur la liste électorale. Alors le PPACI va-t-il aujourd'hui rejoindre cette coalition dans les semaines à venir ? pas forcément, mais le parti émet l'idée de collaborer avec cette nouvelle plateforme une fois qu'elle sera mise en route. Pas de commentaires à ce sujet du côté de la nouvelle coalition, donc Cap Côte d'Ivoire. C'est une coalition ouverte pour tous ceux qui estiment qu'il faut une élection inclusive. Tous ceux qui veulent une élection paisible vont nous rejoindre, a déclaré lundi Charles Blégoudé au sortir du lancement de cette nouvelle coalition.
Et vous avez été nombreux hier dans cette émission à réagir justement à l'absence dans cette coalition de l'ex-président Laurent Gbagbo. Abdel, voilà pour les explications de Bintadian.
Merci beaucoup.
Et bonne journée à vous. Et on prolongera le débat très très vite, évidemment, dans cette émission. 33 9 693 693 70. Ernest a des questions à nous poser. Il est à Lubumbashi. Bonjour Ernest.
Bonjour, bonjour.
Des questions. Pardon ? Oui, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Des questions sur la reconstruction de la bande de Gaza.
Oui, bien sûr. Alors, un plan de reconstruction de Gaza a été adopté par l'Organisation de la coopération islamique. J'ai deux questions sur ce.
Oui.
La première, pourquoi est-il critiqué par les États-Unis? Et la seconde question, est-ce que Trump et son allié Netanyahu proposent une autre alternative pour la reconstruction de Gaza?
Alors, c'est un plan approuvé il y a une semaine maintenant, c'était mardi dernier, par la Ligue arabe. Et il a été adopté samedi par l'Organisation de la coopération islamique. Bonjour Adel Bakawan.
Bonjour.
Chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient. D'abord, que prévoit ce plan? Plantant le décor, que prévoit-il?
Écoutez, tout d'abord, alimenter cette population qui a vraiment faim et la famine. Petit à petit s'installe au sein de 2 300 000 Gazaouis. Et ça, c'est l'élément le plus urgent de ce plan. Mmh. Et ensuite, construire des logements de transition provisoire dans des endroits où on peut installer par groupe les Gazaouis. Et à commencer en deuxième étape, petit à petit, à nettoyer, à préparer pour reconstruire le territoire.
Oui, c'est un plan sur 5 ans. Hein. Il va falloir effectivement déblayer tous les débris, construire des logements. Il est même prévu, je crois, et je parle sous votre contrôle, Adel Bakawan, de construire un port, un aéroport, des zones industrielles. Expliquez-nous pourquoi, et c'était la question d'Ernest, pourquoi ce plan a immédiatement été critiqué à Washington?
Parce que ça ne correspond absolument pas à ce que Donald Trump a proposé. Donald Trump a proposé d'acheter définitivement et matériellement la bande de Gaza, comme si c'était un logement à vendre, comme si c'était un territoire à vendre. Seulement les Palestiniens, les Arabes et les musulmans, le monde musulman dans sa globalité qui a adopté ce plan de la Ligue arabe, refuse le plan américain. Mais les Américains, bien évidemment, ils ont un idéal qui n'est absolument pas réalisable. Et de ce fait, ce plan arabe islamique ne correspond pas à cet idéal.
Plan qui, sans surprise, a également été rejeté par les autorités israéliennes.
Oui, absolument, parce que les autorités israéliennes, je ne sais même pas si on peut parler encore des autorités israéliennes, on peut parler du premier ministre israélien qui est en parfaite concordance avec Donald Trump, naturellement refuse. Dès que la Maison Blanche, dès que Donald Trump refuse, Benjamin Netanyahu refuse naturellement. Dès qu'il l'accepte, il l'accepte naturellement. Autrement dit, on est dans cette concordance à 100% entre les deux présidents.
Enfin, et pourtant,
le président et le premier ministre.
On ne l'a pas évoqué, Adel Bakawan, mais ce plan qui vise donc à reconstruire la bande de Gaza, prévoit également un volet politique. Et l'idée, c'est d'écarter le Hamas et de permettre le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza.
Écoutez, si et on peut parler d'une fragilité de cette feuille de route arabe, cette fragilité se trouve à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait de Hamas? Est-ce que Hamas, on le désarme ou pas? Numéro 1. Est-ce que Hamas accepte de se déplacer, de quitter la bande de Gaza pour s'installer en Égypte, en Jordanie, au Qatar, ailleurs ou pas? Troisième niveau, est-ce qu'on engage les autorités palestiniennes ou pas? Parce qu'en fait, les Américains et les Israéliens refusent catégoriquement l'engagement de l'autorité palestinienne sous la direction de Mahmoud Abbas, qui a perdu, c'est vrai, toutes les crédibilités. Maintenant, il y a un processus en cours très, très important pour répondre à votre question. En deux phrases.
Deux, hein. Une seule, parce que dans dix secondes.
Une seule. On est dans la réarabisation de la question palestinienne. Autrement dit, la communauté internationale et même Israël souhaitent que les Arabes de l'extérieur de la Palestine...
Adel Bakawan,